1 Corinthiens chapitre 12 et versets 12 à 30. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 30. Au nom de Jésus. Un seul corps avec plusieurs parties. En effet, le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties. Ce corps reste un, bien qu'il se compose de différentes parties. Et nous tous, les juifs ou les non-juifs, les esclaves ou les hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aura pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il n'est pas convenable de parler sont traitées avec des égards particuliers. Qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont tout un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Vous tous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi en premier lieu des apôtres, en deuxième lieu des prophètes, en troisième lieu des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui ont le pouvoir de guérir les malades, ceux qui viennent en aide aux autres, ceux qui dirigent les autres, ceux qui ont le don de parler en de langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le pouvoir d'accomplir des miracles ou de guérir des malades ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces langues. Amen. Un seul corps, d'où le thème de notre culte aujourd'hui, les dons spirituels de qui, pour qui et pour quoi, en deux mots. Au tout début de cette méditation, je vais vous avouer quelque chose. Il est vrai que nous apprenons des connaissances théologiques lors de nos formations dans les facultés de théologie, mais pour moi, les facultés de théologie ne doivent pas prétendre détenir la vérité sur Dieu. J'avais fait 9 ans de théologie et c'est la conclusion que j'ai dit à mon directeur de mémoire et le président du jury, quand ils m'ont posé la dernière question, « Pour vous, qui est Dieu ?» J'ai dit, après 9 ans, « Je ne sais pas qui il est. » J'avais risqué gros parce que, pour un étudiant, on n'a pas de réponse. J'ai dit, jusqu'aujourd'hui, je me pose encore qui il est. Par conséquent, quand on parle de la Bible ou les Saintes Écritures, la dimension de la révélation nous rattrape toujours. Et je peux vous dire que les études théologiques ne sont que des portes d'accès vers cette révélation divine. Pour moi, c'est une porte qui nous ouvre vers une aventure extraordinaire. Il y a encore des choses à découvrir. Toutefois, il faut faire attention, il y a aussi l'autre extrême qu'il faut se préserver, c'est justement de dire, puisque la théologie nous ouvre un grand horizon sur Dieu, alors la notion de pluralisme s'impose. C'est la nouvelle tendance aujourd'hui. Et cette notion est vraiment en vogue de nos jours. Alors je me suis posé la question, est-ce que, puisqu'on parle des divers dons, est-ce que le pluralisme est une chance pour l'Église ou un danger pour l'Église? Étonnamment, le texte d'aujourd'hui qui a été prévu, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, par le lectionnaire, nous donne justement une piste de réflexion sur le sujet. Regardez bien le texte, quels sont les mots qui reviennent plusieurs fois? Je me suis amusé à compter des mots. Le corps revient 18 fois. Le mot « un » 7 fois. Le mot « multitude » 3 fois. Et le mot « partie » avec « s » 15 fois. Rien qu'à partir de cette étude d'occurrence, nous pouvons constater que Paul insiste sur l'importance de l'unicité du corps du Christ. Je dis bien l'unicité, mais non l'unité. C'est deux choses différentes. L'unicité avant l'unité. Aujourd'hui, l'unité dans la diversité. Non, l'unicité. Il faut d'abord parler de l'unicité du corps avant de parler de l'unité des chrétiens. On est dans la semaine de l'unité des chrétiens en plus. Le premier doit être l'unicité du Christ, car de là seul découle l'unité des chrétiens. Il n'y a pas d'unité sans le Christ. Or, aujourd'hui, on nous essaie de faire avaler qu'on peut s'unir avec tout le monde. Il n'y a pas d'unité sans le Christ. Vous allez peut-être me dire, mais pasteur, pourquoi insistez-vous là-dessus? Cela semble si évident, non? Oui et non. Oui, cela est évident que si et seulement si nous croyons que Christ seul connaît le Père, il est le seul à le connaître, et que seule sa révélation est la bonne, seule sa révélation est la plus fiable. Et de l'autre côté, non, ce n'est pas du tout évident que ça, parce qu'actuellement, on véhicule de nos jours dans nos églises, surtout dans l'église protestante, qui semble être plurielle, que Dieu pourrait se révéler en dehors de la Bible, en dehors du Christ. Et il y en a tellement aujourd'hui qui véhiculent cela. Et l'argument de base utilisé pour justifier cette théologie dite moderne est que Dieu est souverain et on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, dans une case. Et la Bible, pour eux, serait une boîte qui enfermerait Dieu. Dieu ne peut pas être limité dans la Bible. En partie vrai, mais il faut faire très attention. Pour ces gens-là, pour ce courant qui est assez nouveau dans l'Église, Dieu s'est révélé à travers la Bible. Oui, nous sommes d'accord, mais aussi il peut aussi se révéler en dehors de la Bible. Et là, ça pose problème. D'où la notion de pluralité. Et cette pluralité consiste à dire qu'il y a d'autres vérités qui pourraient mener les hommes à Dieu à part le Christ. Et là, on parle de pluralité de révélation. Cette idée-là, je vous assure, plaît au monde aujourd'hui. Nous croyons tous au même Dieu, c'est ce qu'on dit, non? Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Nous croyons tous au même Dieu, mais la façon dont on y parvient est multiple. Ce type de pluralisme-là n'est pas du tout adéquat, bibliquement parlant. Et ce que je dis là, ce n'est pas parce que telle est ma conviction, parce que c'est moi qui le pense, et que ça doit être la seule vérité. Non, loin de là. C'est parce que cette unicité, regardez bien le texte, unicité annoncée par Paul, ici n'est autre que le reflet de l'unicité trinitaire. tout ce qui unit les trois personnes dans la Trinité. C'est en préparant cette méditation, moi personnellement, que j'ai pu comprendre ce lien. Parce que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans la Trinité, nous aussi, que nous soyons plusieurs, que nous avons plusieurs dons, nous devons être unis à Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais les parties de ce Dieu-là est tri-personne. C'est alors que Paul nous dit dans ce texte que les différents dons spirituels que chacun détient du Saint-Esprit provient du fait que nous sommes unis au corps du Christ. C'est seulement cela. Mais, hélas, ce qui est désolant, c'est de voir les enfants de Dieu qui se chamaillent entre eux, des chrétiens qui perdent le temps à se dire « Mais quelle sorte de don qui est le plus important ?» Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous avez bien entendu le texte. Et à quelle position même se situe ce don? Elle est un peu plus bas. Hein? Donc faisons attention. Ce n'est pas dans quelle sorte de don qui est le plus important, parler en langue ou guérir, enseigner, etc. La liste, elle est là. Mais chacun essaie de vendre qu'ils ont reçu comme étant la part la plus importante. Et à partir de là, ils vont crier que seul chez eux, que Dieu œuvre, mais non pas chez les autres. Le fait d'avoir un don spécifique ne veut du tout rien dire pour Paul. Si nous relisons les versets 29 à 30, écoutez bien ce qu'il dit. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils maîtres? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Qu'est-ce que cela signifie dans ce genre de rhétorique, de questions? Paul attire l'attention des Corinthiens et à nous aujourd'hui, ses lecteurs, que lorsqu'on sait qu'on a reçu un don de Dieu, cela implique directement qu'il y a un manque d'autres dons à part. Si j'ai reçu un don, ça veut dire qu'il y a d'autres dons qui existent, mais que je ne peux pas tout avoir. Et je dois reconnaître le don de mon frère, de celui qui est à côté de moi. Voilà l'appel que Paul donne ici. Un seul don ne suffit pas pour le croissement de l'Église. Et c'est à partir de cette conscientisation-là que nous pourrions comprendre que nous avions besoin des uns et des autres. Pour qu'une église de Jésus-Christ soit édifiée. L'illustration utilisée par Paul est magnifique. Regardez bien ce qu'il dit au verset 23 et 24. Celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence. Tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. C'est une belle image, une illustration qui nous explique tout. Donc chaque don, quelle que soit notre considération de ce don, est capital aux yeux de Dieu. Car sans l'un ou l'autre, le corps devient handicapé. La logique du royaume des cieux est complètement à l'opposé de la nôtre, car celui qui pense être le plus grand aura toujours besoin du plus petit. Et Jésus avait évoqué cela en mentionnant Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit pour Jean-Baptiste ? Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi tous les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, la suite de la phrase est intéressante, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Un enfant dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, avec tous les dons qu'il avait. Vous vous imaginez? Aux yeux de l'homme, les gens voient, oh, Jean-Baptiste est un grand homme de Dieu. Mais quand une fois il est dans le royaume des cieux, il devient le plus petit par rapport aux autres. Il n'y a aucune raison pour s'enorgueillir alors, lorsqu'on est conscient du don que Dieu nous a donné. Et déjà même le terme « don », cela exprime que c'est par pure grâce que nous l'avions reçu. Le don ne nous appartient pas. Et je vous assure, Dieu peut te l'enlever, ce don. J'ai connu un pasteur qui avait un don incroyable. À chaque sainte scène, lorsqu'il partageait le pain et le vin, celui qui était présent au culte et qui venait à la sainte scène, après avoir avalé le pain et le vin, il est guéri sur le champ. Je l'ai vu de mes propres yeux. Pourtant, il ne dit rien. Il ne dit pas « Venez ici les malades » comme dans les autres églises. Non, il faisait son boulot entre guillemets. Mais il me l'a dit une fois, « Dieu m'a retiré ce don. » Parce que les gens venaient au culte rien que pour ça. Et c'était devenu comme une sorte de médicament. « Ah, là-bas, paraît-il, on distribue des cachets. Ah. » Même pas besoin de prier le Seigneur, il suffit d'avaler le truc que le pasteur partage. Et là, vous voyez, le don peut détruire. Au lieu d'édifier le corps du Christ, ça devient un obstacle. Alors Dieu peut te l'enlever. Pour le bien de la personne qui possède le don, mais aussi pour la personne qui vient au culte. Vous voyez, le don ne nous appartient pas. On ne peut pas dire, mais j'ai un don, donc je peux l'utiliser quand je le veux. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est comme ça. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Je fais des impositions des mains à des malades. Parfois, le malade est guéri. Parfois, il n'est pas guéri. C'est comme ça, parce que le don n'est pas quelque chose en permanence dans les serviteurs de Dieu. Et heureusement, parce que nous allons tomber dans l'orgueil à la fin. Alors, le don n'est pas du tout une échelle de valeur, ni une récompense donnée à une personne parce que cette personne a obéi Dieu et en retour, il lui donne un don spirituel. C'est tout à fait faux. Ces dons mentionnés par Paul dans ce texte proviennent du fait que nous sommes unis à Christ qui est à la tête de son Église et nous en faisons corps avec lui. Un jour aussi, un pasteur a reçu un message, « Tu vas aller guérir quelqu'un aujourd'hui. » Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit ? « Ah, je vais aller au marché. » Et il a vu la première personne avec ses béquilles, « Viens ici, mon frère, Jésus va te guérir aujourd'hui parce qu'il m'a dit que... » Tout le monde était réuni autour. « Jette tes béquilles. Au nom de Jésus, tu seras guéri. » Et l'handicapé est tombé par terre. Les gens ont failli le tuer. Parce que comme s'il se moquait du malade. Alors il était fâché contre Jésus. Mais pourquoi tu m'as infligé cela ? Et en rentrant chez lui tout triste, vraiment abattu, c'est là qu'il a entendu une voix. Il a rencontré quelqu'un dans un tunnel où il n'y avait personne. Pas de publicité, pas de télé, pas de Facebook, pas d'Instagram. Voilà un malade, c'est lui que j'étais choisi pour que tu le guérisses. Et là, il a prié pour le malade est guéri, sans publicité. C'est là qu'il a compris. Le don ne sert pas celui qui l'a, mais le frère qui est malade. Voyez, le don que Dieu nous donne sert à quoi, finalement ? Et c'est le piège. Parfois, quand on a beaucoup de dons, c'est très, très dangereux. Ça peut se retourner contre nous-mêmes. Et par quels moyens nous pouvons avoir ce don alors ? Paul l'a dit, par le biais du baptême. Nous avions tous reçu un don, tous ceux qui ont été baptisés. Et c'est pour cela que le baptême est primordial. Non seulement tu deviens enfant de Dieu, mais le jour où tu as été baptisé, tu as reçu un don du Saint-Esprit, mais tu ne le connais pas. Et c'est cela qui prime avant toute chose. Le fait d'être enfant de Dieu et le don vient après. Les dons sont si utiles, mais c'est le titre d'enfant de Dieu qui est le plus important. Or, nous avons toujours la mauvaise habitude de mettre en avant ces dons avant notre statut d'enfant de Dieu. Et cette erreur a été recadrée par Jésus lui-même, rappelez-vous, face aux 72 disciples qui ont reçu un don, « Allez-y, guérissez les malades !» Et ils avaient expérimenté pour la première fois l'autorité que Jésus les avait accordée pour chasser les démons et guérir les malades. Oh, ils étaient si fiers, tout contents en revenant. Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Vous voyez le réflexe dès qu'on a un succès? Jésus n'était pas contre leur joie, bien sûr, mais il les avait recadrés pour se rappeler que ce qui s'est passé n'est pas si étonnant que ça. Parce que cela ne vient pas de vous, ni de votre compétence. Voici la vraie cause. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair, dit le Seigneur, à cause de votre nom qui est écrit dans le ciel. C'est ça qui vous donne l'autorité. C'est parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et tout pouvoir, dit le Seigneur, m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le Seigneur ne nous envoie pas dans le monde avec les mains vides, dans son champ de mission. Et voici ce qu'il avait dit à ses disciples avant de retourner auprès du Père. Je vais aller vers le Père et je vous envoie dans le monde. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toi aussi, tu as reçu un don. À toi de le découvrir. Amen.